Le journal Bruno Duvic.
Bonjour à tous, au sommaire aujourd'hui. La dernière ascension de Raymond Poulidor, les obsèques du cycliste populaire entre tous, se sont tenues ce matin à Saint-Léonard-de-Noblat. Dans le froid de novembre, Bernard Hinault et Bernard Thévenet ont porté le cercueil. Récit de Fanny Lechevestrier dans un instant. Le soir tombe sur l'université polytechnique de Hong Kong et le siège continue. Des manifestants pro-démocratie à l'intérieur, la police à l'extérieur. Reportage de notre envoyé spécial Dominique André. La pédiatrie à l'hôpital est en déshérence. C'est une tribune publiée à la veille des annonces d'Edouard Philippe sur l'hôpital. L'invité de ce journal pour en parler sera la professeure Brigitte Chabrol qui travaille à l'hôpital de la Timone à Marseille. Dans cette édition encore, François Baroin entre apaisement et vigilance avant de recevoir Emmanuel Macron cet après-midi au congrès des maires de France.
Nous sommes sa garde nationale. Quand la République est en danger, nous sommes là au premier rang. Mais il faut aussi nous aider à faire face aux violences, aux incivilités, aux injures. Il faut nous aider, nous entendre sur un grand mouvement de liberté locale.
Maxence Lambrec nous racontera les confidences de François Baroin. L'enquête après l'effondrement du pont de Mirepoix-sur-Tarn. Question en particulier sur le poids du camion. 45 tonnes selon le maire et les gendarmes. C'était 19 tonnes autorisées. Renault, un an après l'arrestation de Carlos Ghosn, l'ambiance n'est pas bonne dans l'entreprise. C'est ce que dit l'ancien directeur général Patrick Pellata. Le procès de Bilal Taghi, détenu pour terrorisme qui avait agressé des surveillants de prison. Le procès s'est ouvert ce matin. Une bonne sœur interdite de maison de retraite à Vesoul parce qu'elle portait le voile et l'habit. Nous vous raconterons cela. À 13h30, la Terre au carré. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
Il sera question des semences.
Oui, on s'intéresse à l'appauvrissement des semences et à la perte de diversité des variétés cultivées. Je reçois Blanche Magarinos-Rey qui est avocate, qui a défendu l'association Cocopelli. Elle va répondre à toutes vos questions et vous pouvez bien sûr nous les poser dès maintenant au standard.
Au 01 45 24 7000, l'émission c'est à 13h30. Avant cela, libéré, délivré, bien payé. Bonjour Philippe Lefebvre.
Bonjour Bruno, vous chantez bien.
À la veille de la sortie de La Reine des Neiges 2, votre enquête Philippe sur le business autour d'Anna et Elsa.
Et oui, dans les magasins, les trains et même sur les pistes de ski, la Reine des Neiges sera partout. Objectif pour Disney, faire mieux que le 1,3 milliard d'euros de recettes du premier épisode.
A tout à l'heure pour les détails, le 13h, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
On a joué de l'accordéon et le camping a même été rouvert en plein automne pour accueillir les amis et les admirateurs. Les obsèques de Raymond Poulidor avaient lieu ce matin à Saint-Léonard-de-Noblat, cette commune de 5000 habitants dans la Haute-Vienne où il vivait. Entre autres personnalités, trois anciens vainqueurs du Tour étaient présents, les deux Bernard, Hinault et Thévenet, et Lucien Aymard, vainqueur de la Grande Boucle en 66. Bonjour Fanny Lechevestrier.
Bonjour Bruno.
Sur place pour France Inter, la France populaire, celle du cyclisme et des copains, a dit adieu ce matin à Poupou.
Oui, c'est une image simple, émouvante, au son de l'accordéon et des bruyères corréziennes qu'il émet tant que Raymond Poulidor est entré dans la collégiale, porté son cercueil, notamment par deux vainqueurs français du Tour de France. Bernard Hinault a paru très éprouvé et Bernard Thévenet.
Il va nous manquer, bien sûr, ça fait un grand vide parce qu'il occupait une grande place, mais l'important c'est qu'on le garde dans le cœur. Beaucoup de gens se sont identifiés en Raymond Poulidor, même longtemps après sa disparition. On parlera encore de lui.
Un champion fidèle à ses racines, qui n'avait pas oublié d'où il venait. C'est ce qu'a répété à plusieurs reprises le père Thomas au cours d'une cérémonie où le mot simplicité est revenu vraiment dans chaque discours, à l'image de cette photo finalement qui trône à l'entrée de la collégiale montrant Poupou en tenue de ville sur un vélo, saluant avec son sourire si caractéristique la foule, l'émotion omniprésente aussi parmi la centaine d'anonymes blottis dans le froid, les larmes aux yeux, notamment lorsque le petit-fils de Raymond Poulidor, grand espoir du cyclisme, Mathieu Van Der Poel a fait lire par sa mère ce mot « Toi, si fier d'être mon grand-père, moi, encore plus fier d'être ton petit-fils, tu es mon plus grand champion. » Émotion enfin du patron du Tour de France, Christian Prudhomme.
Il y aura énormément d'amour et une émotion folle d'un grand champion, d'un grand monsieur.
Et personne n'oublie que le Tour de France partira en 2020, la 12e étape de Saint-Léonard-de-Noblat. Une cérémonie qui s'est terminée au son de l'hymne à l'amour, la chanson préférée de Raymond Poulidor.
Tu me l'as demandé.
Voilà. Edith Piaf à Saint-Léonard de Nobla, la voix d'Edith Piaf. Pour rendre un dernier hommage à Raymond Poulidor, c'était Fanny Lechevestrier en direct avec Benjamin Chauvin et l'étape du Tour de France dont vous parliez, Fanny. Ce sera le 9 juillet. Pourquoi le pont de Mirepoix sur Tarn s'est-il effondré hier matin? Le poids du camion est-il l'élément décisif? L'enquête, les enquêtes ne font que commencer. Camion toujours dans le Tarn, la mise hors d'eau demandera du temps, peut-être plusieurs semaines. Les plongeurs ont pris des images, des technologies laser et des drones sont utilisées. Les gendarmes envisagent une modélisation du camion en 3D. Le chauffeur qui a perdu la vie hier, tout comme la jeune fille de 15 ans, était aussi le patron de son entreprise de forage. Alors le poids maximal autorisé pour passer le pont, c'était 19 tonnes. Combien pour ce camion? Ce matin, sur France Bleu Occitanie, le maire de Mirepoix, Éric Auger, a repris les estimations des gendarmes et il privilégie cette piste du poids plutôt que celle d'un manque de fiabilité du pont.
Moi, j'ai pas de doute sur l'entretien. Je pense que là, enfin, l'enquête va le dire, mais de ce que ont pu me dire les gendarmes hier soir, on est sur un tonnage hors norme, véritablement hors norme. C'est largement au-dessus du gabarit toléré, parce que bon, on était à 19 tonnes, mais il y avait une tolérance sur le tonnage. Mais là, on est très vraiment hors norme, parce qu'on parle de plus de 45 tonnes. Donc les gendarmes ont commencé à identifier la dimension du camion et on est sur ce volume-là. Donc vous imaginez sur un pont qui acceptait 19 tonnes avec la tolérance, mais là on est vraiment effectivement dans un gabarit hors norme. Ce qui me surprend le plus, c'est que le chauffeur de l'entreprise connaissait le secteur, donc c'est pas une entreprise qui venait de très loin, qui aurait pu s'égarer avec le GPS ou je sais pas quoi, et donc on comprend pas ce qui s'est passé. Bon, je pense que l'enquête peut-être le dira, mais on comprend pas ce qui s'est passé.
Enquête qui ne fait que commencer, mais la question qu'amène ce drame est la suivante. Est-ce que les chauffeurs routiers s'affranchissent régulièrement des règles fixées pour franchir un pont, la limite de poids notamment? Est-ce qu'ils sont mis en garde lors des formations? Bonjour Rémi Brancato.
Bonjour.
Rémi, lors de l'émission spéciale organisée par nos confrères de France Bleu Occitanie, des témoignages ont permis d'alimenter la réflexion.
Oui, ce matin en Haute-Garonne, Pierre, auditeur, se présente à l'antenne de France Bleu Occitanie comme ancien chauffeur d'un poids lourd de 34 tonnes et il décrit une certaine souplesse dans la pratique.
Moi-même, j'ai passé des ponts à plus de 19 tonnes parce que on est en local. Si vous voulez, comme le chantier est de l'autre côté du pont...
Vous passez outre le risque?
Non, il y a une mention, il y a écrit « sauf desserte locale ». Automatiquement, on a en droit de passer.
Mais pour la Fédération nationale des travaux publics que nous avons sollicité, cette pratique est interdite. Pour outrepasser le tonnage maximal fixé sur un pont, il faut une autorisation spécifique de la préfecture. La législation est stricte. La FNTR, la Fédération nationale du transport routier, précise que le GPS professionnel est obligatoire à bord. Il désigne des parcours uniquement autorisés. La formation des chauffeurs sur les limites de charge sur les ponts est d'ailleurs très rigide. Mathieu, autre auditeur de France Bleu et chauffeur routier, le sait bien.
Pendant les formations poids lourds, on nous explique bien que si cette limite a été définie, certes, il y a toujours une marge de sécurité, mais il ne faut pas jouer avec. Que si jamais en fait on s'aperçoit que suite à notre passage, il y a un défaut du pont, sans parler de catastrophe, mais juste en fait un effritement, il y a des sommes astronomiques qui sont juste en jeu, si jamais en fait on abîme un ouvrage d'art.
Et la FNTR précise justement que la formation continue des chauffeurs routiers est très régulière, tous les 5 ans.
Merci Rémi Brancato, et l'État est prêt à aider au cas par cas les communes qui en auraient besoin pour remettre leur pont en état. C'est ce que dit ce matin la secrétaire d'État à la transition écologique.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
L'université polytechnique de Hong Kong est en train de devenir l'un des lieux emblématiques de la contestation populaire, à l'image d'une place Tahrir, par exemple. C'est sur ce campus que sont retranchés depuis dimanche, encerclés par la police, des manifestants pro-démocratie dont l'action est de plus en plus violente. Certains se sont échappés en quittant l'enceinte en rappel avec des cordes récupérées par des motos et des scooters. Récit de cette nouvelle journée de siège par l'envoyé spécial de France Inter, Dominique André.
La nuit est tombée sur Hong Kong, une ambiance lourde et étrange règne sur le campus. Pas de tir de gaz lacrymogène aujourd'hui. Des policiers anti-émeutes cagoulés patrouillent autour de l'université. Ils bloquent toujours les accès. Des sirènes d'ambulance brisent de temps en temps ce silence. Une femme assise sur le sol prie en pleurant. Elle ne veut pas dire son nom.
On voulait rentrer à l'intérieur, mais on n'a pas le droit. Tous les habitants de Hong Kong sont des enfants de Dieu. Les protestataires sont tous des enfants de Dieu. Nous les aimons.
Une étudiante fait les 100 pas. Son amie est bloquée à l'intérieur.
Actuellement, j'attends des nouvelles de mon ami qui est à l'intérieur du campus de Polytechnique. Je ne suis pas sûre qu'ils veuillent sortir. Des professeurs sont rentrés pour les approcher et discuter avec eux pour qu'ils sortent, mais c'est une question de confiance entre les étudiants et le gouvernement.
Aujourd'hui, la pression a été surtout politique. Carrie Lam est sortie de son silence pour demander aux émeutiers, dit-elle, de se rendre. Le chef de la police appelle la population à les aider à combattre les violences qu'il compare à du terrorisme. Pour les étudiants, les reclus de Polytechnique sont des braves. Deux mondes continuent de s'affronter par les mots. Hong Kong, Dominique André, France Inter.
Le regard de la Chine sur ces événements, je vous renvoie à deux rendez-vous de la matinale de France Inter à réécouter sur franceinter.fr. La chronique de Pierre Aski et puis Jean-Pierre Raffarin, le représentant spécial du gouvernement pour la Chine, était l'invité de France Inter ce matin. C'est un nouveau coup d'éclat de la diplomatie américaine. Les colonies israéliennes de Cisjordanie ne sont plus considérées comme illégales par Washington. Après cette déclaration américaine, reportage de notre correspondant Frédéric Mettezo dans la colonie d'Ephrat entre Jérusalem et Hébron.
Des lotissements à flanc de colline, des rues proprettes, beaucoup de verdure et un checkpoint à l'entrée. Ephrat a tout d'une colonie typique de la Cisjordanie. Shraga habite ici depuis 13 ans. La déclaration américaine est un événement considérable pour lui.
C'est vraiment quelque chose de révolutionnaire de la part de la première puissance mondiale. Ces territoires appartiennent au peuple juif. Les juifs ne sont pas des étrangers là-bas.
Kippa grise sur la tête, son petit garçon lui tenant la main. Hanani est moins enthousiaste.
On n'a pas besoin du feu vert américain, c'est notre pays. On vit ici, c'est comme ça. On n'a pas de problème avec les Arabes. Je crois que c'est eux qui ont un problème avec nous.
Mohamed vit dans un camp de réfugiés. Il travaille à Ephrat dans un pressing. Il est palestinien. Ses clients sont juifs.
Je n'ai aucun problème avec les juifs. Je travaille avec eux depuis 35 ans, mais je veux revenir chez moi. Ils ont pris ma terre avant 48. J'espère que Trump fera une paix juste entre les Palestiniens et les Israéliens, mais j'ai un mauvais pressentiment.
La déclaration américaine conforte le gouvernement israélien et les colons. Ils sont plus de 400 000 en Cisjordanie, en constante augmentation. Ephrat, Frédéric Mettezo, France Inter.
En Iran, des centaines de policiers anti-émeutes étaient déployés ce matin à Téhéran. C'est en tout cas le récit de l'agence France Presse qui parle également d'un poste de police et de station-service incendié. Mais il est difficile de savoir ce qui se passe dans le pays depuis vendredi soir et les premières manifestations contre la hausse du prix de l'essence. Internet est coupé. Au Liban, aucune loi d'amnistie n'a été votée ce matin à Beyrouth. Bousculades, concerts de casseroles, affrontements avec la police. Les manifestants ont empêché les parlementaires de siéger. On a même entendu des coups de feu. Cela fait plus d'un mois que le Liban est secoué par des manifestations contre une classe politique qualifiée d'incompétente et corrompue. Il y a un an, 19 novembre 2018, un coup de tonnerre éclatait dans le monde des affaires et de l'automobile. L'arrestation de Carlos Ghosn, le PDG de Renault-Nissan à Tokyo. Il est accusé de fraude fiscale et abus de biens sociaux. Depuis, la firme s'est dotée d'un nouveau PDG, Jean-Dominique Sénard. A-t-elle réellement absorbé le choc? La réponse est non, selon l'ancien numéro 2 de Renault, Patrick Pellata. Il avait quitté la firme bien avant l'affaire Ghosn.
Il y a 30 à 40 cadres de haut niveau qui ont quitté Renault en un an. Un bon nombre sont allés chez PSA. Et ça, évidemment, ça affaiblit une direction générale. Mais ça démontre aussi une ambiance interne pas bonne. On part pas dans une entreprise qui va bien, qui a des perspectives. Et je pense que c'est peut-être l'élément le plus lourd à la fin. Parce que vous voyez des mauvais résultats, mais si tout le monde dit « bon, ça y est, ils sont en train de faire ce qu'il faut », c'est pas si grave que ça. On sait, dans l'automobile, on sait avoir des mauvais résultats et se redresser. PSA, qui était pas bien il y a quelques années, on a eu une preuve. Mais quand il n'y a pas le moral, quand les gens ne voient pas vers quoi on veut aller, le directeur général se fait virer, c'est pas bon du tout.
Propos recueillis par Isabelle Raymond pour Carlos Ghosn. Après l'arrestation, on suivi 130 jours de prison. Il est aujourd'hui en résidence surveillée à Tokyo. Interdiction de voir son épouse et même de communiquer avec elle. Ce matin, les enfants de Carlos Ghosn dénoncent un système juridique japonais cruel et injuste. Les liens sont-ils vraiment renoués entre Emmanuel Macron et les élus locaux? On verra cela cet après-midi. Le président parle devant le Congrès des maires de France à la porte de Versailles à Paris. Dans la salle, il y aura notamment le président de l'Association des maires de France, François Baroin,
possible adversaire d'Emmanuel Macron en 2022. On en est très très loin. Ce matin, devant la presse, Maxence Lambrecq, l'ancien ministre de Chirac et Sarkozy, François Baroin, a joué l'apaisement.
Autour d'un café avec la presse ce matin, François Baroin a tout de même mis la pression sur Emmanuel Macron. La considération qu'attendent les maires, ce n'est pas les amabilités et le folklore habituel. Oui, ça va mieux, mais tout reste à écrire. Le patron de l'Association des maires de France attend du chef de l'État une feuille de route. Car au lendemain du grand débat, Emmanuel Macron avait promis une nouvelle étape de décentralisation, plus de pouvoir aux élus locaux. Mais lesquels et à quel rythme? François Baroin aimerait que les maires puissent s'occuper du logement, du sport, du tourisme, de la culture, que la gestion de l'eau ne leur échappe pas. L'autre dossier sensible, c'est évidemment le financement, avec la disparition progressive de la taxe d'habitation. Mais Emmanuel Macron devrait laisser les aspects techniques à son Premier ministre qui viendra ici jeudi. Lui devrait jouer la carte régalienne et républicaine, ce qui convient bien au maire de Troyes.
Nous sommes sa garde nationale. Quand la République est en danger, nous sommes là au premier rang. Mais il faut aussi nous aider à faire face aux violences, aux incivilités, aux injures. Il faut nous aider, nous entendre sur un grand mouvement de liberté locale.
François Baroin dit vouloir dépolitiser ce rendez-vous, ne pas apparaître comme le nouvel homme fort de la droite et potentiel adversaire du président. Prudence donc, mais je ne maîtrise pas la salle, prévient-il. À son arrivée ici il y a 2 ans, Emmanuel Macron avait été sifflé.
Et peut-il être candidat à la présidentielle, François Baroin? Ce serait dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, répond-il ce matin à nos confrères de BFM. Dans le dossier des retraites, après le rapport qui établit que le déficit sera de 8 à 17 milliards en 2025, la droite met la pression sur le gouvernement. Il doit la vérité aux Français. Il va falloir travailler plus longtemps, dit par exemple Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Le MEDEF, le patronat, plaide de son côté pour un âge pivot. Autrement dit, un âge minimal pour une retraite à taux plein en dessous. On ne toucherait pas cette retraite à taux plein. C'est demain qu'Édouard Philippe doit annoncer les réponses du gouvernement après les manifestations et grèves assez massives de tous les personnels hospitaliers la semaine dernière. Dans ce contexte, un collectif de pédiatres alerte dans une tribune publiée dans le journal Le Monde. Les soins hospitaliers pédiatriques sont en totale déshérence. Pour en parler, c'est notre rendez-vous santé du mardi. Nous sommes au téléphone avec le professeur Brigitte Chabrol. Bonjour madame.
Bonjour.
Chef de service de neurologie pédiatrique à la Timone à Marseille et présidente du Conseil national des professionnels de pédiatrie. Il y a, madame Chabrol, près de 2 millions d'enfants hospitalisés chaque année. 350 000 souffrent de maladies complexes ou de longue durée. Ils ont besoin de prise en charge spécifique, écrivez-vous dans cette tribune, c'est-à-dire quoi de particulier dans la prise en charge des maladies des enfants?
Il faut absolument, dans le cadre de l'organisation des soins, vraiment tenir compte des spécificités des enfants et des adolescents qui ont besoin de compétences très particulières. Or, aujourd'hui, nous sommes très inquiets parce que, au travers des différents progrès qui ont été réalisés et vraiment de la spécialité de chaque domaine pédiatrique, nous avons une réponse qui n'est pas en mesure d'absorber, en fait, le défi actuel.
C'est-à-dire que soigner des enfants, ça demande plus de temps, ça demande plus de moyens, ça demande plus de personnel.
Alors ça demande certainement beaucoup plus de temps parce que lorsqu'on soigne un enfant, on soigne l'enfant et sa famille, qu'il s'agit de pathologies extrêmement complexes, de pathologies développementales. On ne fait pas les mêmes soins à un petit enfant de 2 ans ou à un grand gaillard de 17 ans. Et par ailleurs, il faut également du personnel qui soit formé, qui soit spécifique et en nombre suffisant. Et actuellement, on ne retrouve pas ça au sein de nos hôpitaux.
Alors justement, quand vous écrivez que les soins hospitaliers pédiatriques sont en totale déshérence, cela se manifeste comment ?
Ça se manifeste tout d'abord par des questions, j'allais dire, totalement du quotidien. Par exemple, les équipes soignantes qui ne sont pas assez importantes par rapport à la tâche à accomplir, ou certaines tâches justement d'accueil, d'accompagnement, de soutien à la parentalité, d'éducation thérapeutique, ne peuvent se faire du fait du manque d'effectifs.
Vous dites même les enfants devraient être les premiers, les privilégiés, et c'est un peu la dernière roue du carrosse. Vous dites carrément cela, hein?
C'est vrai que très souvent, malheureusement, au niveau administratif, au niveau gestionnaire, la pédiatrie n'est pas considérée comme une spécialité à part entière qui doit en même temps faire tenir compte du développement, avoir une vision globale de chaque enfant, mais également des soins très spécifiques, qu'il s'agisse de cardiologie, de neurologie, de néphrologie, de pneumologie. Et tout cela nécessite des moyens qui soient totalement adéquats.
Madame Chabrol, les pédiatres font partie de ceux qui ont manifesté la semaine dernière chez les médecins. Vous avez même, les pédiatres embrayaient assez vite après les grèves aux urgences. Est-ce que demain, vous attendez des mesures spécifiques de la part du Premier ministre pour la pédiatrie?
Oui.
Et lesquelles?
Alors, nous sommes vraiment en attente de cette réorganisation, d'une réorganisation qui soit locale au sein de nos propres hôpitaux, mais également au niveau régional, avec, par exemple, au niveau des ARS, qui est vraiment un délégué à la pédiatrie.
Les agences régionales de santé, oui.
Oui, pardon, des agences régionales de santé, qui est un délégué à la pédiatrie pour bien déterminer l'offre de soins sur un territoire donné et en fonction des différentes pathologies observées. Donc, tenir compte de l'épidémiologie, tenir compte des besoins, tenir compte, bien sûr, des professionnels de santé qui vont pouvoir officier autour des enfants et surtout remettre l'enfant au cœur du débat. Pour nous, c'est l'intérêt premier de l'enfant qui est à défendre et demain, c'est également le 30e anniversaire des droits de l'enfant et cette organisation des soins pédiatriques s'inscrit totalement dans cela.
Un tout petit mot, le paradoxe, me disait Véronique Julia qui m'a aidé à préparer cet entretien, c'est que la prise en charge, en tout cas le soin des enfants progresse énormément ces dernières années en France.
Tout à fait. Tout à fait. Nous avons la chance, effectivement, de pouvoir bénéficier de thérapies innovantes, de pouvoir offrir des soins de très haute qualité aux enfants dont on s'occupe. Et malheureusement, à contrario, certains des soins doivent être déprogrammés, voire annulés par manque de moyens, manque d'effectifs spécifiques.
Merci.
Donc, vous comprenez, notre combat aujourd'hui, c'est vraiment pour la santé des enfants.
Et on suivra les annonces du Premier ministre demain. Merci, Madame Chabrol, d'avoir pris quelques minutes pour répondre à nos questions. Et à propos d'hôpitaux, celui de Rouen n'est toujours pas complètement sorti de sa galère informatique. Une cyberattaque massive vendredi soir. Tous les ordinateurs éteints pour éviter que le virus ne se propage. Le week-end a été passé à revenir à la bonne vieille méthode. Crayon papier pour tout, les prescriptions, les résultats d'analyse, les échanges entre services, etc., etc. Et la remise en route devrait durer toute la semaine, reconnaît le directeur de la communication, Rémi Heim. Quelques échos de la journée d'hier.
Aujourd'hui, les applications les plus critiques ont été remises en marche. Donc on peut fonctionner relativement normalement, mais il y a quand même beaucoup de logiciels qui ne sont pas encore remis en état de fonctionner. Donc on reste quand même, je dirais, il y a des trous dans la raquette, on reste encore des fois en mode dégradé, comme on dit chez nous, en mode dégradé, papier, crayon ou autre. Et donc du coup, ça nous retarde. C'est pour ça qu'on demande aux gens, par exemple aux urgences, qui est un service critique, qu'on a remis en marche le plus rapidement possible, mais il reste encore des choses qui n'ont pas été résolues, de ne venir aux urgences que vraiment quand ils ne peuvent pas faire autrement. S'ils peuvent aller voir leur médecin traitant, c'est le moment de faire un effort.
Propos recueillis par Anne Bertrand de France Bleu Haute-Normandie. Une enquête a été ouverte évidemment après cette attaque informatique par le parquet de Paris. C'était la première fois qu'un détenu terroriste attaquait des surveillants de prison. Le 4 septembre 2016, deux gardiens de la maison d'arrêt d'Ony, Val d'Oise, banlieue parisienne, étaient blessés par Bilal Taghi qui a 27 ans aujourd'hui. Le procès s'est ouvert ce matin devant la cour d'assises spéciale de Paris. Bonjour Charlotte Piré.
Bonjour.
Charlotte, vous êtes sur place pour France Inter. L'accusé avait jusqu'à présent revendiqué son acte. Il semble avoir changé de ligne de défense.
Ce que j'ai fait, c'est impardonnable. Je suis vraiment désolée. Dans le box, Bilal Taghi, courte barbe, l'air à peine sorti de l'adolescence, s'est tourné vers les deux surveillants pénitentiaires qu'il a agressés, deux imposants gaillards installés sur le banc des parties civiles. Bilal Taghi a 27 ans aujourd'hui, une épouse religieuse qu'il ne voit plus. Depuis ce que j'ai fait à Oni, elle a décidé d'en rester là. Deux fils de 5 et 2 ans. L'aîné avait 2 mois à peine lorsque la famille tente de rejoindre les rangs de l'État islamique. Deux frères de Bilal Taghi sont déjà, ils sont morts aujourd'hui, ce qui fait beaucoup pleurer l'accusé. Interpellé avant d'atteindre la Syrie, incarcéré en France, Bilal Taghi passera une semaine à aiguiser un morceau de métal avant de transpercer la gorge d'un des surveillants. J'étais bien ancré dans l'idéologie de Daesh à l'époque, explique-t-il à la cour. Et aujourd'hui, Bilal Taghi s'agite, se tourne à nouveau vers les parties civiles entre larmes et énervement. Il n'y a pas d'excuse pour ce que j'ai fait. J'ai fini par accepter ces conneries pour soulager ma peine, mais ça n'a fait que bousiller ma vie. Aujourd'hui, je ne me vois pas plus loin que la prison. Quant aux surveillants passés si près de la mort, mort. Ils se disent tout simplement brisés.
Charlotte Piret en direct pour France Inter. Dans l'actualité encore, le décès de la veuve de Léopold Sénar Senghor. Colette Senghor vient de mourir également, évidemment, ancienne première dame du Sénégal. Elle avait 93 ans, elle vivait à Verson dans le Calvados. Ça, c'est une histoire repérée par nos confrères de France Bleu Besançon. Une religieuse refusée dans une maison de retraite parce qu'elle porte le voile et l'habit religieux. Le foyer logement, géré par le CCAS, Centre Communal d'Action Sociale, a des règles strictes en matière de laïcité. Ça se passe à Vesoul, donc, Jean-François Fernandez.
Tout part en octobre 2018 de la volonté d'une sœur de plus de 70 ans, installée dans un couvent de la Drôme. Elle souhaite pour sa retraite revenir sur ses terres de Haute-Saône. Elle prend contact avec le foyer logement, une maison de retraite gérée par le CCAS de Vesoul. Le président du CCAS parle sur un ton agacé d'une affaire classée. Selon lui, elle a refusé le règlement intérieur qui interdit tout signe ostentatoire d'une religion. Sous-entendu, si elle veut un appartement, elle doit refuser de porter un habit religieux et enlever son voile. Seule concession, porter une croix en pendentif, version confirmée par le maire de Vesoul. Sans solution, la vieille femme se retrouve dans un appartement quasi insalubre. La paroisse finit, par l'intermédiaire d'un agent immobilier, par lui trouver un logement. Selon la paroisse, cette sœur a le sentiment de rejet et avoue avoir traversé une période difficile.
Voilà pour ces précisions de Jean-François Fernandez. Le rouleau compresseur Reine des Neiges 2 sort demain au cinéma. N'éteignez pas votre poste ou votre téléphone, nous n'allons pas chanter, non, nous allons ouvrir le tiroir caisse. Le business de la Reine des Neiges, c'est un enjeu majeur chez Disney en cette fin d'année. Philippe Lefebvre, comme promis, vous êtes avec nous, vous avez mené l'enquête. Commençons avec un chiffre assez monstrueux.
Eh oui, le premier épisode avait rapporté 1,3 milliard de dollars à Disney et les jouets, notamment les poupées, étaient même restés pendant 3 ans en tête des ventes, toutes catégories confondues au moment de Noël.
Et là, Noël 2019 approche.
Oui, et autant vous dire que dans les chaînes de magasins de jouets, on est fin prêt, d'autant qu'Elsa, la reine et Anna sont de bons produits d'appel pour faire rentrer les futurs clients dans les magasins. Franck Mattet est le porte-parole de Jouet Club.
Au niveau du chiffre d'affaires de l'enseigne, on est sur 3% environ, donc c'est pas considérable, mais c'est en fait du chiffre d'affaires additionnel. Donc c'est de la fréquentation en plus, c'est de la demande en plus. Ici, on est sur plus de 100 jouets différents. On a un niveau de prix qui varie de 7€ pour les petites figurines jusqu'à 150€ pour le gros palais de la Reine des Neiges.
Bon, Anna et Elsa dans les magasins de jouets, Philippe, mais aussi évidemment dans les parcs d'attractions.
Et oui, à Disneyland Paris, depuis ce week-end, il y a un spectacle tout nouveau avec Elsa et Anna en chair et en os. Et dans les boutiques du parc, on propose plus de 200 produits différents, y compris des vêtements et de la maroquinerie pour adultes. Et autant vous dire que cet hiver, Elsa et Anna seront incontournables. Disney a même signé par exemple un contrat de partenariat avec les stations savoyardes des Trois-Vallées. Vincent Lalanne est le directeur de l'Office du tourisme de Val Thorens.
Vous retrouverez des personnages sur les pistes, des pistes qui seront décorées, des remontées mécaniques qui seront décorées. Ce sera un peu la surprise, mais on donnera à chaque personne qui a envie de faire ça, essentiellement beaucoup d'enfants d'ailleurs, un petit plan des pistes spécialement dédié où ils pourront avoir les différents lieux où il y aura de la scénarisation.
Alors c'est mignon comme tout, tout cela rapporte combien à Disney ?
Eh bien les fabricants de jouets reversent entre 10 et 14% de leur chiffre d'affaires réalisé sur ces produits et ça peut même monter jusqu'à 50% pour certains contrats. En fait, tout ça, ça sert à financer les films avant même qu'ils soient en salle. Et c'est bien là le film le plus rentable de toute l'histoire du dessin animé.
Merci Philippe Lefebvre.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes. Toutes naturelles. Cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton. Et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Élodie Calac.
Sur les régions allant du Massif central et de Rhône-Alpes vers le centre-Val de Loire, la région parisienne, le nord-est et les Ardennes, ça reste encombré. La grisaille a parfois du mal à se morceler. Ça n'empêche pas quelques éclaircies bien appréciables. Sur les régions voisines de la Manche et de l'Océan et du sud de la Garonne au Languedoc-Roussillon, on a de bons moments de soleil. Attention, dans les Landes, la crue de la Dour se poursuit. Mistral et Tramontane sont assez marqués. Ça s'ennuage à nouveau dans l'après-midi sur la pointe bretonne à l'approche d'une nouvelle dégradation. Et puis sur la Corse et la Côte d'Azur, on garde des averses, parfois un orage. De la neige vers 1000 mètres sur le sud des Alpes. L'ambiance reste fraîche avec 6 à 12 degrés, 11 à 17 pour le sud-est. Demain encore un temps bien frais et gris le matin.